France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Fils d'une famille de 7, où on s'est retrouvé sans notre papa qui est décédé du jour au lendemain, on s'est retrouvé un peu au travail dans une entreprise très difficile, toute petite, un café-restaurant. Et j'ai tellement vu ma mère pleurer au fourneau, souvent, que j'ai dit je ferai jamais ce métier, quoi. Et envoyé à l'école hôtelière contre mon gré, parce que ma mère on ne disait jamais non, et puis rencontrer un chef qui, par sa façon d'être, de nous prendre, de nous expliquer, du jour au lendemain, vous dites ah ouais, c'est ça que je veux faire. Donc je trouve que c'est tellement d'importance, l'exemple que vous pouvez donner aux jeunes. D'un lieu qui est froid, d'un lieu qui n'avait peut-être pas grand-chose, finalement on fait des choses. C'est ce qui a inspiré toute ma cuisine en fait.
Bonjour à toutes et tous. Merci cher public. Nous sommes ravis en cette nouvelle saison de reprendre le cycle de nos rendez-vous avec de grandes signatures de la gastronomie devant le public très chaud. Du studio 621 de la Maison de la Radio, nous avons déjà cuisiné à ce micro Anne-Sophie Pic, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Olympe Versigny, Emmanuel Renaud, Hélène Darroze et Pierre Gagnère. Et le grand chef qui passe aujourd'hui sur le grill de cette masterclass épisode 8 dont va déguster, c'est Régis Marcon. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous arrivez de Saint-Bonnet-le-Froid avec une petite étape à Lyon, c'est ça?
Oui, surtout avec un petit sac que j'ai ramassé hier de quelques champignons qu'on trouve
en ce
moment.
Ah, il y en a des kilos là. Mmh. On va se régaler parce que, évidemment, on va le voir, bien évidemment, la cuisine des champignons, ça vous occupe, ça vous passionne. Saint-Bonnet-le-Froid, d'où vous nous venez, village de Haute-Loire, à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Étienne, où vous avez 3 étoiles Michelin au fourneau du restaurant Marcon et où vous animez un étonnant écosystème familial, humain, gastronomique. Il y a votre épouse, Michel, bien entendu. Il y a aussi vos fils qui sont à vos côtés, on va le voir, Jacques et Paul. Vous êtes un chef discret, Régis, assez peu connu du grand public, et pourtant, on va voir à quel point vous avez soulevé des montagnes tout au long de votre parcours. On veut vous entendre sur votre histoire de famille émouvante, sur votre cuisine, bien entendu, sur votre engagement aussi pour l'alimentation saine et durable, et sur votre dernier livre, Je laisse, de ma main gauche, je le soulève, viande et volaille, 20 portraits d'animaux, 60 gestes techniques, 110 recettes aux éditions de La Martinière. C'est le dernier tome, et le dernier thème aussi, d'une collection de livres devenus carrément des livres de référence pour tous les cuisiniers.
Oui, je suis assez fier de ces livres parce que c'est du travail d'une part, et puis je crois qu'à un moment ou à un autre, comme vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de faire passer cette passion, de l'écrire, d'en parler, et le livre est un bon moyen.
Il y a des pas à pas, il y a des gestes techniques tout à fait essentiels qui font partie de notre gastronomie française. Et viande et volaille, c'est le dernier sujet après avoir traité dans différents livres les champignons,
que du végétal,
les herbes,
jusqu'à présent,
les céréales et légumineuses, les légumes, bref, une très belle collection. La masterclass dont on va déguster, ce sont aussi des dégustations surprises et la fameuse séquence de la plaque de cuisson à laquelle, cher Régis, vous allez vous prêter. Il y a aussi, et il y aura vos temps d'échange avec deux de nos chroniqueurs, ils sont abonnés à ces masterclass, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Cher public, on vous invite à mettre votre grain de sel dans cette émission. Nous avons besoin, attention, de volontaires pour participer à nos dégustations. Préparez vos palais. Cette masterclass est réalisée par Laurent Thomas avec Théo de Labaudère, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission, Djoubaka pour la programmation musicale, et puis les prises de vue vidéo pour les réseaux sociaux de France Inter sont assurées par Pierre-Yves Georges, Xavier Chocron et Maxime Soulard. Pour retrouver nos masterclass et tout leur contenu, recettes, bonnes adresses et vidéos, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Les masterclass On va déguster sur France Inter.
Régis Marcon, la meilleure façon de faire votre connaissance, c'est sûrement d'évoquer la saveur très particulière de cette année 2025. Une année charnière où vous fêtez une flopée de bonnes nouvelles et d'anniversaires grâce à un alignement de planètes assez troublant. Vous allez comprendre. Je vous propose d'égrener quelques dates. Ce sont toutes des années rondes, à commencer par la plus récente, le lundi 27 janvier 2025, il se passait ça.
Des supporters en ébullition, tous derrière le représentant tricolore Paul Marcou. 24 concurrents venus du monde entier. Chaque équipe a dû présenter une assiette et un plateau aux membres du jury. Après dégustation, l'heure des résultats a sonné. Les gagnants du Bocuse d'or sont appelés.
Après Régis, ça sera...
Un rêve d'enfant pour Paul, avec ses yeux brillants, juste à côté de son père, Régis Marcon, qui a remporté ce même prix il y a 30 ans. Un clin d'œil pour le jeune homme de 29 ans, qui est bien décidé à poursuivre l'écriture de sa propre histoire.
Vous avez les yeux qui brillent, Régis Marcon, vous sent très ému.
Forcément, excusez-moi, mais je ne m'attendais pas à ça.
Alors, on vous cueille d'entrée de jeu.
Oui. Bah forcément, parce que l'alignement de planète, je sais pas, mais je sais que ce qui me rend fier, en fait, c'est que Paul, ce concours, on pourrait dire, tiens, c'est parce que c'est le fils d'eux. Il y en a qui l'ont dit, mais c'est normal, ça fait partie des... Non, il essaie d'aller la chercher toute seule. Lui, ça démarre il y a plus de 15 ans. Hein. Il revient de l'école hôtelière, il me dit, papa, je me suis inscrit à un concours. Alors, premier réflexe que je lui dis, tu apprends d'abord à cuisiner avant de faire des concours. C'est normal. J'appelle ses profs de l'école hôtelière, je dis, vous n'êtes pas fou de l'inscrire à un concours, il vient juste de démarrer. Il me dit, mais c'est pas nous, c'est lui. Bon, l'alignement de planète est incroyable parce qu'il est né 9 mois après le Bocuse d'or, 95.
Parce qu'alors, en 95, c'est vous qui remportez le Bocuse d'or, précisons quand même.
C'est pour ça qu'il s'appelle Paul d'ailleurs.
Non mais c'est incroyable.
En référence à M. Paul, paraissait normal.
Précisons quand même que le Bocuse d'or, c'est vraiment l'équivalent de la médaille d'or olympique pour les cuisiniers. Il n'y a pas plus grande récompense dans le monde. Tous les chefs du monde la voudraient, cette récompense.
Avec, je mets un bémol là-dessus parce que c'est des concours. C'est assez spécifique, le concours, forcément. Mais bon, Paul a un mental incroyable, quoi. Il m'effraie, même des fois, parce que j'ai l'impression que c'est une vraie machine quand on fait quelque chose.
Vous avez été une machine en 1995, lorsque vous avez aussi gagné ce trophée prestigieux.
Différemment, parce que mon parcours a fait que moi, je n'aimais pas spécialement les concours. J'ai participé à des concours parce que j'avais besoin de me jauger, quoi. Pour moi, c'était mon école de cuisine, parce que je suis un autodidacte, finalement. J'ai fait 2 ans d'école claire et puis je me suis installé. Et entendre, après 3 tentatives de MOF où j'ai échoué dans les finales, entendre M. Paul qui m'appelle un matin en cuisine, « Hey Marcon, tu veux pas représenter la France au Bocuse d'or ?» Il n'y avait pas de sélection à l'époque, pas de sélection France ni européenne. Alors d'abord, j'étais surpris de ce coup de fil. J'ai su pourquoi d'ailleurs. C'était grâce à Pierre Froirot qui m'avait vu au MOF et qui avait dit « Ce gars-là, il faut le pousser, il faut l'aider. »
Et Pierre Froirot, vous a parrainé. Hein.
Ah oui. Pierre, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Mm-hmm. J'ai eu 10 minutes pour donner ma réponse, le temps d'en parler à mon épouse. Et puis voilà, on a tenté l'aventure, qui était complètement différente que maintenant, mais tellement intéressante aussi, parce que je tenais mon restaurant et je m'entraînais en même temps. Maintenant, ce n'est plus le cas, on ne peut plus. Dans ma tête, qu'est-ce qui se mélange? C'est le fait de faire partie de ces jeunes de Saint-Bonnet-le-Froid qui, nos parents même, nous l'avaient imbriqué, surtout mon père, on veut faire des études pour foutre le camp de Saint-Bonnet. Quoi. C'était pas l'avenir, Saint-Bonnet. C'était le pays trop froid, c'était le pays trop dur pour eux, parce qu'ils avaient vécu, eux, en tant que paysans, d'une part, hein, et mon père en tant que marchand de vin, parce qu'ils ont quitté leur ferme précipitamment. Et c'est une revanche, un petit peu, peut-être, dire, tiens, quand je voyais Tokyo, Saint-Bonnet-le-Froid, New York, Saint-Bonnet-le-Froid, ça fait un effet incroyable.
Et Régis Marcon, il y a un souvenir qui est devenu un plat signature, mais c'est un peu un souvenir de ce Bocuse d'or en 1995, qui porte le nom de Margaridou, en référence à cette célèbre cuisinière auvergnate. C'est la brochette Margaridou que vous servez encore régulièrement dans vos menus?
Oui, parce qu'on ne peut plus l'enlever. Chaque fois qu'on veut l'effacer, ce n'est pas possible. Et Margaridou, c'est ce merveilleux livre que j'ai lu 10 fois. C'est la générosité, c'est ma mère. Je crois qu'elle m'a appris beaucoup ça, ma mère. J'ai très peu fait de cuisine avec ma mère, mais c'est être généreux dans ce métier. Je crois que c'est se surpasser, mais la nourriture a ce passage qui fait que, waouh, on a envie de donner quelque chose, quoi.
Et c'est quoi cette brochette?
C'est la brochette du Puy, au départ. C'est du riz de veau, du jambon, de la morille qu'on met en brochette. Et ça salive un peu, là.
Vous en avez apporté ou pas?
Et comme ces recettes du début du siècle dernier, assez compliquées, les atéraux, on les masque d'une sauce villerois, qui est une sauce un peu béchamel et épaisse à base de jus de morille. Puis après, on va les passer à l'anglaise, quoi, les mettre dans la chapelure et les frire. C'était ce que servait cette madame Margaridou à son médecin. C'est pas beau, ça, là.
Et précisons que Paul Marcon, votre fils de 29 ans, après avoir remporté 30 ans après vous le Bocuse d'Or en 2025, a rejoint votre deuxième fille Jacques, qui est l'aînée, que vous avez à vos côtés depuis 2004,
qui est au restaurant
3 étoiles.
Voilà.
Très bien. Allez.
De 3.
On passe à la date suivante.
On n'oubliera pas ma fille quand même, qui a tenu une librairie pendant 15 ans, je crois, à Saint-Étienne, et qui maintenant est à Nantes. Elle s'occupe encore de l'animation des librairies, surtout son mari est un vigneron qui a repris une vigne depuis 5 ans, 6 ans maintenant, qui est en train de nous faire un vin incroyable dans les Muscadets.
Le prénom de votre fille ?
Marie.
Marie, qu'on salue chaleureusement. Date suivante, l'année du nouveau millénaire, 2000, il y a exactement un quart de siècle.
France Inter. 19/20, au Goémio pour Régis Marcon, le chef de l'auberge des Cimes à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, désigné ainsi chef de l'année par le guide gastronomique.
Chef de l'année chez Goémio en 2000, avec la note de 19/20, il y a pire pour entamer le nouveau millénaire ?
Oui, tout à fait. Le Goémio, c'est une aventure un peu spéciale. C'est le soir à Saint-Bonnet, il y a du brouillard, il y a une moto qui s'arrête. On ne laisse pas les gens dehors chez nous. Ne serait-ce que quand ils seront coincés dans la neige ou autre, il y a cet esprit montagnard. Je sors, ces personnes étaient perdues un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir une chambre ? Je dis, écoutez, elle ne sera peut-être pas très chaude, mais je vais vous la mettre de côté. Peut-être quelque chose à manger ? Comme vous savez, on ne va pas leur faire un sandwich. Ils sont dehors, ils ont un transit froid. Je me mets au fourneau, je ne sais plus ce que j'avais fait. C'était très simple. Mais je pense que pour eux, c'était le plat merveilleux parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et on discute et voilà, c'est tout. Et il s'avère, ils ne m'ont pas dit sur le coup, que c'était des amis à Christian Millau. Ils en ont parlé tout de suite. Et j'ai vu atterrir Christian Millau chez moi en mai 85, je
Là,
crois.
Là, on parle du grand critique gastronomique de la nouvelle cuisine.
Ça m'effraie pas, mais le pouvoir des guides, ce monsieur, il a un peu changé notre vie, quoi.
Christian Millau.
Ouais. Parce qu'avec ma femme, on allait presque partir à Saint-Bonnet. On se disait, tiens, il faut s'installer ailleurs, parce que ça va. Les hivers sont durs. Et on se retrouve avec un article 2 mois plus tard, et on voit des gens arriver qui avaient fait 100 km pour venir manger chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, François, c'est ce regard vers la nature. C'est se dire, pas du jour au lendemain, bien sûr, parce que j'ai été moniteur de ski, donc la nature, je connaissais, j'en étais imprégné. Mais se dire, mais tiens, Marcon, toi, chez toi, il y a plein de choses que tu n'as pas vues ou pas osé voir. Les herbes, les champignons, etc. Alors on passe d'une cuisine de CAP à une cuisine qui raconte quelque chose. Et ça, c'est formidable parce que ça vous donne une énergie telle que je suis toujours en ébullition, même encore quelques années après, quoi. Toujours, même plus. Parce qu'on découvre tous les jours.
Une cuisine habitée, une cuisine enracinée. Oui. On va évidemment rentrer dans le cœur de votre cuisine dans un instant, bien sûr. Mais je vous propose, Régis Marcon, une nouvelle date. Elle est toujours une date ronde. Il n'y a que des dates rondes dans la chronologie, la biographie de Régis Marcon, 2005.
France Inter, jeudi 24 février, il est 6h30. Il y a désormais 26 restaurants classés 3 étoiles. Un seul nouveau venu cette année, Régis Marcon du Clos des Cimes. Régis Marcon.
Je suis très heureux, je suis très heureux pour mon épouse qui partage cette aventure avec moi depuis maintenant 26 ans. Et je tiens à dédier cette troisième étoile à ma mère qui a été au début de l'aventure en 1948. Je partage avec tous mes collaborateurs et surtout avec mes collègues de Saint-Bonnet puisque faut savoir que le village Saint-Bonnet c'est 200 habitants mais c'est aussi 4 restaurants. Et on travaille de main dans la main.
Le journal de Stéphane Paoli sur France Inter en 2005, c'était il y a 20 ans, 2 décennies de 3 étoiles, Régis Marcon. Il paraît que vous avez fait exploser littéralement la consommation de champagne dans votre village de Saint-Bonnet-le-Froid.
On aime bien le champagne finalement, on s'y habitue.
Oui, et vous avez des occasions d'en boire les années rondes. On va évoquer un tout petit peu votre enfance. À travers une chanson qui a rythmé cette enfance, elle animait toutes les fêtes de famille, certains mariages, est-ce que vous me voyez venir ?
Ah, forcément, il y a du Jean Ferrat là-dedans, non ?
Ben, je crois bien, ouais. Jean Ferrat, c'était qui pour vous et pour la famille ?
Il venait quelques fois à la maison, mais il avait une histoire avec mon oncle aussi. Mm-hmm. Entraigues, c'est un village d'Ardèche, et mon oncle était juste au-dessus, le plus haut village d'Ardèche. C'était un curé un peu communiste, on va dire, qui bousculait les codes à aider les paysans, à déneiger, justement, parce que ce hameau, la Champs-Raphaël, ça burle aussi, hein. Il y a pas mal de neige.
Quoi. Il venait s'attabler chez votre maman ?
Il est peut-être venu, mais c'est l'époque où je n'étais pas, mais il est venu une, deux fois, voire plus. Et c'était quelqu'un avec qui j'aimais beaucoup discuter, parce qu'il était d'un humanisme, et on partageait un peu cette lettre qu'il avait écrite en traigue pour dire aux gens, bousculez-vous, vous vous rendez compte, vous oubliez votre histoire avant de voter. J'en dis pas plus.
Et cette chanson, La Montagne, 1965, je vous propose tout simplement de l'écouter, Régis Marcon.
Elle est belle.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Haute Loire, à Saint-Bonnet-le-Froid, c'est le chef 3 étoiles, Régis Marcon, qui a repris la cantine scolaire. La quinzaine d'élèves a donc la chance de goûter à de la haute gastronomie, mais le prix du repas, lui, n'a pas changé. Guillaume Frixon et Céline Olive.
Installée dans les salons d'un hôtel, la cantine scolaire a désormais fière allure et les enfants ont un sourire gourmand.
C'est super bon, ça a de nouveaux goûts que j'avais jamais goûté. Tellement c'est joli, t'as l'impression que c'est compliqué.
Et est-ce que c'est bon au moins ?
Ah bah oui !
Votre village natal de Saint-Bonnet-le-Froid, Régis Marcon, alors c'est un peu la montagne de Jean Ferrat, hein, un village de Haute-Loire qui est quand même perché à 1126 mètres
voilà.
D'altitude. Et il fait froid comme son nom l'indique ?
Oui, c'est pas l'abri du vent, hein. Sur les crêtes, sur le plateau, plateau ardéchois. Hein.
C'est ça, Haute-Loire, Ardèche, à cheval entre les deux, et c'est votre épicentre. Vous y avez donc le restaurant Marcon, où Jacques et Paul, on l'a vu, vos fils, vous ont rejoint. Vous avez aussi ouvert la boulangerie-pâtisserie-salonté La Chanterelle, le bistrot La Coulomelle, un complexe hôtelier-spa, des jardins, une école de cuisine.
Et... mon fils Paul, Thomas, pardon, je les confonds à chaque fois.
Oui. Et vous alimentez la cantine scolaire, de la primaire et de la crèche, c'est ça ?
Ouais, j'ai tendance, souvent je dis quand on me parle de cette aventure, parce que c'est une belle aventure, je trouve, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on s'enrichit, quoi.
L'aventure a commencé quand ?
Bah, c'est ma belle-fille, elle me dit, vous êtes gentil, Régis, mais il y a 6 restaurants à Saint-Bonnet, mais vous n'êtes même pas capable de faire la cuisine pour les enfants. Ils sont une trentaine, hein, ils ne sont pas très nombreux. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? C'était, je crois, au début du Covid. Alors on a pris les choses en main, mais on n'est pas allé que... faire la cuisine, bien sûr, équilibré, il y a le jardin, il y a tous les produits, forcément, on a tout ce qu'il faut. Et... mais on a créé vraiment une école de goût. Et surtout, c'est pas Régis, c'est un ensemble, parce que la maîtresse, tout de suite, le maire, tout de suite, tout le monde adhère à ce projet. Chaque semaine, on présente un produit, On est un peu prof de géographie, un peu prof d'histoire. Ah, moi, j'apprends aussi en même temps, du coup, parce qu'il faut chercher un petit peu, leur raconter des choses.
Mais c'est quand
ils dessinent en même temps.
C'est
dessinent
une logistique quotidienne.
Ouais, ils dessinent aussi en même temps leurs produits, quoi. Ils voient dans quelle partie du monde est née la tomate, etc., ses origines. Et puis, on fait goûter. Puis, un atelier toutes les 3 semaines, sucré ou salé. Ce qui me plaît bien, c'est les réflexions que j'ai pu avoir dernièrement, parce que, finalement, ils mangent mieux. Ils mangent mieux. Une petite soupe tous les jours, il y a les crudités qu'ils mangent à gogo. Donc on se fait ce mélange de légumes crus et cuits, etc. Et puis, il y a l'accompagnement à table aussi. Les mamies qui viennent là pour aider aussi. Et on ne sert pas l'assiette, on sert au plat, et on ne pousse pas les enfants. Et on leur demande jamais de dire, c'est pas bon. On leur dit, c'est pas à mon goût, et on essaie.
Est-ce qu'il y a régulièrement des lentilles ?
Forcément, lentilles vers du puits, mais il y a d'autres lentilles et on leur fait pas mal manger aussi de légumineuses. C'est important qu'ils les connaissent aussi.
Est-ce que vous savez que je me suis...
Et de la viande, bien entendu, et du poisson et de tout.
Je me suis totalement approprié une de vos recettes qui fait désormais partie de mon quotidien, Régis Marcon.
Ah.
Le houmous de lentilles.
Ah oui, oui. Facile en
plus. Le houmous de lentilles, autant dire que ça a une couleur un peu dégoûtante. Globalement, ça ressemble à une bouse de vache. Mais alors, en remplaçant, c'est une très belle idée.
C'est la terre.
Le pois chiche, légumineuse favorite d'Elvira Masson, par la lentille verte du puits, qui bénéficie d'ailleurs d'une appellation d'origine protégée.
Sur lequel on a beaucoup travaillé, nous.
Absolument. En remplaçant le tahiné, cette fameuse crème de sésame, par une crème d'oléagineux plus proche de chez nous, la purée d'amande, eh bien, en faisant bzz bzz dans un blender avec 600 g de lentilles cuites, 1 à 2 cuillerées de purée d'amande, 1/2 gousse d'ail, un peu de vinaigre, sel et poivre, on obtient
pas d'huile ajoutée.
Une tartinade extraordinaire. Il n'y a pas d'huile ajoutée, si ce n'est l'huile qu'il y a dans l'amande.
Et, oui.
Et ça donne un produit prodigieux.
Moi, j'adore, François, quand tu expliques les recettes, parce que il aurait dû faire du service à la maison, quoi. Parce que...
Hein,
il y a le son, il y a les yeux, il y a tout. Et c'est ça notre métier, c'est de faire vibrer les gens aussi avec les recettes.
Et votre métier,
on y est dedans, là.
Et votre métier, Régis, c'est aussi de transmettre. Parce qu'alors, vous avez formé un paquet de cuisiniers et de cuisinières. On a, figurez-vous, c'est une première surprise, retrouvé la trace d'une pâtissière qui vous admire, qui est passée par les cuisines de votre restaurant gastronomique à Saint-Bonnet-le-Froid. Elle s'appelle Émilie Ray. Elle s'est mariée très récemment avec un chef cuisinier que vous avez également formé, Édouard Mignot. Ils sont installés à Chassagne-Montrachet. Vous nous situez Chassagne-Montrachet, Jérôme Gagnès ?
Ben, Chassagne-Montrachet, c'est en plein cœur de la Bourgogne, de la Côte d'Or, de la Côte de Beaune, à côté de Puligny. Ils partagent le Grand Cru, le Montrachet. C'est pour ça qu'ils ont accolé Montrachet à leur nom, respectivement Puligny et Chassagne.
Eh bien, Émilie Ray est installée par là-bas.
Donc on a une table gastronomique, Edem, ensuite le restaurant La Cabane, un restaurant d'extérieur, grande terrasse dans l'herbe avec barbecue. Après on a le restaurant Prosper, donc c'est un bistrot où on propose une cuisine un peu travaillée mais qui reste simple et avec des bons produits toujours bien sélectionnés. Et puis le dernier né, on va dire, c'est la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie de 40 ans qui n'avait pas eu de boulangerie à Chassagne. On est très contents et très fiers d'avoir réussi à ouvrir ce commerce qui est vraiment quelque chose d'incroyable aussi pour le village. Moi, je suis originaire de Saint-Étienne, donc c'est tout à côté de Saint-Bonnet-le-Froid. Mon objectif, c'était de travailler pour Régis Marcon parce que j'aimais l'image qui dégageait, j'aimais ce côté proche des gens et j'aimais beaucoup sa cuisine qui me touchait beaucoup. Je suis rentrée donc, pour ma première saison en 2006. Et j'ai fait 4 ans après avec Régis Marcon. J'ai commencé comme commis en pâtisserie et après j'ai évolué en tant que demi-chef de partie, chef de partie et seconde de pâtisserie. Moi je trouve que c'est un chef incroyable, une approche humaine, une approche respect de la nature. Il m'a toujours appris qu'il fallait pas se fier au visuel, il fallait toujours trouver le goût, le bon goût en tout cas, que le visuel ça venait toujours après. Enfin voilà, j'ai passé 4 ans formidables. J'ai rencontré mon mari, on s'est rencontrés là-bas. Puis on a construit nos maisons aussi ensemble. Et on s'est beaucoup inspiré de ce que Régis Marcon il a fait à Saint-Bonnet-le-Froid dans notre façon de créer les autres entreprises. Pour nous, c'est un modèle, quoi. Voilà. J'espère qu'un jour, il viendra quand même nous voir à Chassagne, hein, puisque bon, on l'attend. Mais nous, on va aller le voir en octobre pour l'anniversaire. Donc c'est bon.
Émilie Ray fait allusion à votre triple anniversaire qui se déroulera dans votre village à la mi-octobre. Hein. Vous allez faire la fête. Les 20 ans du restaurant, de vos 3 étoiles, les 30 ans de votre Bocuse d'Or. Ça va faire la fête à la mi-octobre. Émilie Ray, vous vous souvenez ?
Bah oui, forcément, il y a des collaborateurs qui marquent plus que d'autres. Émilie, et le couple, maintenant, a marqué. On a un peu plus de 180 apprentis qui sont passés dans notre maison. Hein. Donc, ça en fait un petit peu. Et ce qui me plaît le plus, là, sur Émilie, c'est d'entendre, sont inspirés peut-être ça pour créer quelque chose. Et oui. être entrepreneur.
Elle, à son tour, crée aussi cet écosystème en Bourgogne.
C'est pas facile. Ouais, bravo.
Séquence Troc Gourmand. Vous en connaissez le principe, c'est un échange entre nous de bons procédés, de bons produits. Vous nous faites goûter une surprise comestible et en échange, c'est nous qui vous servons une surprise. On commence avec la vôtre si vous voulez bien, alors vous dites rien, Régis.
Oui, dire peut-être qu'elle n'est pas engageante quand on la regarde comme ça.
Mais ça, on a l'habitude. Nous accueillons au micro un auditeur, une auditrice. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Vous avez les papilles bien affûtées, parce que c'est vous qui allez prendre la parole, hein. Alors, Martine, qu'est-ce que vous avez sous les yeux ?
Ça ressemble à du granola, très sombre. Il émane un parfum de, je dirais, de champignons. Ça me rappelle lorsque je réhydrate mes champignons séchés.
Vous êtes amatrice de champignons, Martine ?
Oui.
Alors, on va vous laisser goûter. Loïc, alors vous goûtez cette espèce de préparation très très longue en bouche, avec beaucoup de concentration. Qu'est-ce que vous nous dites ?
C'est très bon. Effectivement, il y a du champignon.
Je suis rassuré déjà.
La texture est étonnante. Je ne sais pas comment dire. Enfin, ça croque sous là un peu...
Ouais. Un peu sableux ?
Un peu sableux, oui, c'est ça.
Il y a du fondant, du croquant. Martine ?
La force du champignon, mais qui laisse quand même dégager d'autres...
Alors, on parle quand même, attention, voilà, on parle peut-être d'une préparation sucrée.
Il y a une sucrosité, alors moi je ne l'avais jamais goûté, je crois avoir deviné ce que c'est, mais je ne l'avais absolument jamais goûté.
Vous voulez...
Donc c'est le praliné de cèpe ?
Oui, c'est le praliné de cèpe.
Bravo ! Quelle préparation ! Alors ça, c'est vraiment une préparation signature qui vous colle à la peau.
Oui, parce que vous savez, en cuisine, on n'invente pas grand-chose. Il y a des mélanges qui peuvent être inventés, etc. Mais c'est peut-être la seule chose que j'ai inventée dans la cuisine. Et j'en suis fier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a inspiré de ma mère. Je suis un maniaque du non-gaspillage. D'abord, c'est respecter le produit, d'une part. Et un technicien, un cuisinier, s'il prend en main de ne moins gaspiller, il va certainement devenir plus inventif aussi. Et d'ailleurs, il y a quelques recettes qui figurent dans le livre. Donc, l'aventure commence avec ce beurre de cèpe. Du beurre fondu, qu'on mène à couleur un peu noisette, avec des cèpes secs, du châtaignier de préférence, c'est une force. Donc il ressortait des cèpes qui étaient frits, mais qui n'étaient pas beaux du tout. Je disais, qu'est-ce qu'on fait de ça ? On ne les gardait pas pratiquement, et je dis, c'est pas possible. Et voilà, ça m'a pris, j'ai dit, le cèpe a le goût de l'amande, a le goût de la noisette un peu. On l'éponge, et je me suis mis à la caraméliser, tout simplement. Et quand j'ai goûté mixé, je dis, oh, ah ouais, c'est un parfum incroyable, quoi. Qu'on sert dans multiples recettes, ça peut être du chocolat au cèpe, ça peut être dans les gibiers, ça peut être en pleine de préparations. Et j'ai encore en tête une de tes émissions, François, où tu parles du umami. Le umami, c'est tellement universel. Et alors, on est vraiment dans le côté umami du champignon, quoi.
Et ce qui fait saliver en fin de bouche et qui surtout engendre cette longueur, cette persistance phénoménale. Mmh. À nous de vous faire une surprise, Régis Marcon, alors c'est le hasard,
c'est le hasard.
On est sur une autre préparation, on peut déjà la qualifier de sucrée. À vous de la goûter.
J'ai tendance à disséquer un peu, je suis désolé, ça se fait pas normalement, mais il y a... ça ressemble un peu à du praliné, alors c'est certainement pas au cèpe, forcément.
Il n'y a pas forcément de piège.
Bon, c'est un chocolat avec un praliné, mais...
Oui.
C'est pas la cacahuète, ce serait plus fort que ça, c'est... Amande noisette ou un autre fruit sec.
Noisette.
Je pense que l'ensemble...
Une fleur de sel très agréable. Mmh.
Ça peut être addictif.
Mmh. C'est très réussi, hein, c'est très équilibré.
Vous voulez la solution des jeux ? Eh bien, c'est précisément Émilie Ray Mignot que vous avez formé. Votre boulangère pâtissière de Chassagne-Montrachet qui vous a préparé cette surprise, on l'écoute.
Donc j'ai choisi de faire déguster ma tablette phare. La base que j'utilise pour fourrer la tablette, c'est mon dessert un peu fétiche du restaurant gastronomique. Donc c'est à base d'un jambuja, noisette, avec un streusel à la noisette et un peu de fleur de sel, le tout enrobé de chocolat noir. C'est quelque chose d'assez fin et assez délicat, j'ai envie de dire, qui fond un petit peu en bouche et on a ce côté un peu salé qui vient relever la noisette. Enfin, dès qu'on commence à manger un carré, on s'arrête plus.
Et c'est vrai que c'est...
C'est diabolique, hein.
Ouais. C'est le côté streusel comme ça qui
pas croustille. Pas trop sucré. Et effectivement, vous avez raison, Elvira Masson, le côté streusel crée vraiment une croustillance au cœur de la tablette.
Ça a son image, je dirais. Parce qu'il y a assez de finesse.
Exactement.
Mais de rien, techniquement, on a une croûte qui est hyper fine.
Ouais.
Ça casse, et en même temps, le praliné dedans. C'est, ouais, c'est les goûts, mais c'est en même temps, on le sait, que son pâtisserie en cuisine, c'est la texture qui a beaucoup d'importance.
Absolument.
C'est se mettre à la place de quand on va goûter, quoi.
Les champis, on y revient. On a goûté cet exceptionnel praliné de cèpe. J'espère qu'il en reste encore un tout petit peu pour notre public, parce que ça, ça vaut le voyage. Les champis, c'est aussi le sujet de votre temps d'échange avec Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Oui, il se cache. Regardez, il se cache sous la mousse. C'est un champignon qu'on appelle ici le charbonnier. Il a un goût un peu iodé. Et la tradition au village, c'est de le cuire comme une moule marinière. Alors on le reconnaît parce qu'il est légèrement jaunâtre. Et c'est un champignon qui est très ferme. Et puis moi, c'est toute mon enfance parce que quand on revenait de l'école, on les épluchait. Parce que c'est un champignon qui s'épluche. Ça, c'est mon bonheur du matin.
Avant de parler de ce petit bonheur du matin et de cuisiner ceux que vous nous avez apportés, je vous cite quelques phrases un peu sibyllines. Les champignons sont le point de départ d'un nouveau paradigme pour la médecine, l'alimentation et l'écologie. Les champignons sont de véritables laboratoires pharmaceutiques miniatures. 70% du carbone du sol est contenu dans les champignons vivants ou morts. Je me suis efforcée d'amener la communauté scientifique à prendre conscience de cette pièce vitale du puzzle et ça a pris des années. L'auteur de ces phrases, ça n'est pas vous, Régis Marcon, le grand mycophile qu'on sait, mais Paul Stamets. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?
Bien sûr, spécialiste.
Grand mycologue américain. On pourrait dire myco-gourou, myco-prophète, tant ses conférences sont suivies. Il génère des millions de vues pour ses TED Talks. Il est le personnage principal du documentaire Fantastic Fungi, qui se traduit par Fantastique Champignon.
Avec des photos incroyables.
Ah ouais,
incroyables.
Une image. Ah ouais, alors ouais. On vous recommande vraiment de visionner ce documentaire.
Alors, c'est un documentaire qui a été produit et diffusé sur Netflix en 2019, mais qu'on trouve désormais sur d'autres plateformes, qui est vraiment assez fascinant, consacré à ce troisième règne, ni animal, ni végétal, un règne qui nous précède, nous survivra et surtout nous aide à vivre. C'est ça le plus important des messages de Paul Stamets et de son équipe d'experts. Les champignons réagissent à leur environnement, ils cherchent de la nourriture, ils se défendent. Je le cite, ils savent résoudre des problèmes, ils sont donc intelligents. Ils peuvent protéger les abeilles, dépolluer des sites contaminés et même nous aider à lutter contre les pandémies, soutient Paul Stamets. Et on ne sait pas encore grand-chose d'eux, ni leurs bienfaits sur notre cerveau, qu'on est en train de découvrir, sur notre santé mentale, sur notre santé tout court. Quant à la puissance du réseau souterrain que compose le mycélium, eh bien les recherches sont en cours, notamment grâce à l'Institut mondial de mycologie, fondé par un certain Jacques Marcon.
Ah oui, oui, c'est tout le regard vers la forêt. Hein,
parce
de toute façon, champignons, dit pas forêt, parce qu'il y a aussi tous les champignons des prés. Mais c'est tout ce caractère de cette nature qu'on ne voit pas.
Qui nous aide.
Et qui nous aide, mais il y a tous ceux qu'on ne voit pas qui sont beaucoup plus étendus. Et puis ceux qui vivent aux dépens de l'arbre. Par exemple, ce parasite crépus qui fait partie de ces champignons qu'on appelle les saprophytes.
Qui ressemble à une espèce d'éponge, hein. Vous nous l'avez apporté, les dents.
Celui-là, je l'ai trouvé sur un épicéa. C'est pareil pour l'origine du matsutake. Hein. En fait, l'origine du matsutake, c'était des dames âgées qui allaient écouter les arbres. Et à un moment, ils disaient on tombe l'arbre, et ils se mycorhisaient tout seuls. Mais il y a ce rapport avec l'arbre. Je ne sais pas si vous avez lu, j'aurais pu me rappeler l'auteur de celui qui a écrit sur les arbres. C'est incroyable. Quand on lit comment vit un arbre, j'en suis devenu même. Je fais un petit peu de course à pied et tous les jours, j'ai sauvé un arbre un jour et je viens lui dire bonjour. Ça peut paraître un peu bon, mais je trouve que c'est une façon de se connecter à la nature. On en a tellement besoin parce qu'il y a une force dans les forêts qui est incroyable. Moi, je me surprends à courir et mon cerveau, il change. il s'aère, il devient positif souvent.
Ça s'appelle
Je suis sûr que les arbres, ils sont aussi pour quelque chose.
La sylvothérapie.
Et si on revient aux champignons, et notamment au mycélium, qui pourrait remplacer le plastique, d'ailleurs les recherches de l'Institut mondial de mycologie sont en cours à ce propos, et produire les antibiotiques de demain. Alors moi, j'ai un petit cadeau pour vous, Régis Marcon, mais bon, je pense que votre bibliothèque mycophile doit déjà contenir ce titre.
Celui-là, oui.
Vous l'avez ? On va l'offrir à quelqu'un de votre entourage.
C'est hallucinant.
C'est génial. C'est le prolongement du documentaire dont je viens de parler. Le livre s'appelle « Hallucinants champignons, leurs extraordinaires pouvoirs sur la santé, l'esprit et la planète » aux éditions Ulmer. Il est vraiment incroyable, ce livre.
Nous, maintenant, à la maison, depuis 3 ans, c'est un poste que Jacques a créé. J'étais plus ou moins pour. On a un mycologue attitré à la maison qui travaille pour nous.
Son nom ?
Qui est scientifique. D'ailleurs, il m'en a ramassé quelques-uns hier. C'est Jérôme Legros. Il a mis au point, d'ailleurs, en faisant pousser des champignons avec substrat, de créer du polystyrène pour le futur, pour éviter le polystyrène. Voilà, il a sorti quelques spécimens et j'espère que ça va faire son chemin encore.
Faites-nous un tout petit inventaire de ce que vous nous avez apporté dans vos assiettes.
Vous avez de la manite rougissante, vous avez la russule mustelina, qui est très intéressante à manger crue. Celle-ci, on l'aime plus ou moins, parce que quand on le voit dans la forêt, on croit que c'est un cèpe, on le retourne, et oh, il y a des lamelles. Il est délicieux, il a un goût de noisette incroyable. Vous avez, celui-là, il n'est pas à Saint-Bonnet, c'est l'Anjac, c'est plus sur les terres un peu calcaires. La manite des Césars, bien entendu.
Ah, la fameuse oronge.
Voilà. Pour moi, ce n'est pas le meilleur des champignons, mais il a statré César, le champignon des papes, qui fait qu'il y a toute
une mythologie.
Une mythologie autour. Vous avez aussi les lactaires. Celui-là, ce n'est pas le délicieux, c'est le salmicolore. Vous avez les chanterelles modestes,
évidemment.
Les pieds de mouton. Là, celui-là, j'aime bien aussi. Cette odeur de farine, c'est le meunier, celui-là. Il porte bien son nom. Après, le cèpe reste une valeur, je dis pas
évidemment,
une valeur sûre.
Le roi des forêts.
Le cèpe, c'est son goût, mais c'est surtout le ramassage, la cueillette. Ce qui a un côté mystérieux. Parce que quand on ramasse le cèpe, moi, je regarde les arbres. Et je suggère à tous ceux qui vont aux champignons, n'allez pas aux champignons pour cueillir spécialement le champignon, mais... immergez-vous dans cette forêt, écoutez ce qui se passe, écoutez le bruit qu'il y a dans les forêts, ce vent, les oiseaux, et regardez les arbres autour de vous, au-dessus. Vous allez vous imprégner de quelque chose qui est incroyable, vous allez comprendre des choses. Vous voyez, un charbonnier, ça se ramasse sous un pin.
Le cèpe.
Le matsutake qu'on trouve au Japon, on en trouve un peu chez nous, se ramasse sous les pins rouges. C'est un champignon qui est fabuleux aussi, oui.
Quand il s'agit de champignons, ne l'arrête plus, Régis Marcon.
Oui, je crois.
Mais justement, vous allez passer au fourneau parce que le cèpe, il va en être question dans un instant avec la fameuse séquence de la plaque de cuisson, une façon très particulière.
J'ai redouté beaucoup cet instant, en fait.
De cuisiner le roi des forêts. Et puis, on va aussi continuer à évoquer votre cuisine des champignons. Vous nous rappelez les références, Elvira Masson, du livre
vraiment formidable.
Que vous n'offrez pas à Régis
Marcon.
Mais
non, je vais peut-être le garder pour moi, du coup. Hallucinant champignons, leurs extraordinaires pouvoirs sur la santé, l'esprit et la planète aux éditions Ulmer. Non, tiens, un cadeau pour Jérôme.
Lequel Jérôme aura aussi des questions à vous poser au sujet du vin et plus si affinité. C'était Wolf Alice, un groupe de rock alternatif britannique avec le titre Just Two Girls.
Les masterclass dont va déguster. Sur France Inter.
Régis Marcon a rejoint la plaque de cuisson dont on va déguster. C'est désormais une séquence rituelle de nos masterclass. Précisons que, à la suite de Martine et Loïc, qu'on remercie chaleureusement pour leur expertise, deux auditeurs et auditrices nous ont rejoints parce que vous allez goûter, il y a pire quand même comme expérience, vous allez goûter la recette que prépare comme ça en live, en direct. Régis Marcon, vous vous appelez ?
Amélie.
Et Marc.
Amélie et Marc, vous nous venez d'où ?
De Lyon.
Vous avez fait le voyage pour Régis Marcon ?
Oui, et pour vous aussi.
Ah.
Toute l'équipe.
Ça fait plaisir. Et Marc ?
Et moi, ce sont mes racines ardéchoises qui m'ont amené ici. Mais j'habite à Brie-sur-Marne.
Parfait. Régis Marcon, annoncez la couleur.
Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous cuisiner le cèpe. Ça reste un peu l'emblème d'automne et puis un peu partout en ce moment. Alors, j'ai trouvé que c'était la recette peut-être idéale à préparer à la maison après la cueillette.
Comment vous allez vous y prendre ?
Alors, je vous annonce d'abord la recette. C'est un cèpe qui est rôti dans des feuilles de châtaignier.
Ah,
vous pouvez très bien le faire et c'est encore plus odorant aussi. Avec des feuilles de figuier. Vous prenez plutôt des champignons assez petits. Les gros, on en fait plutôt des farcis. Là, aujourd'hui, ça va être très simple.
Allez,
On va couper le cèpe en deux, le quadriller. Il n'est pas habité, c'est déjà bien, parce qu'en ce moment, ils sont souvent habités, les cèpes.
Vous les taillez en deux dans le sens de la longueur.
Voilà. Il faut que ça rentre dans ma petite cocotte. La cocotte est l'idéal.
Alors là, qu'est-ce que vous faites ?
Je fais deux ou trois petites entailles, sel, poivre.
Sur chaque moitié.
Vous prenez du lard que vous allez insérer dans ces fentes.
Avec la pointe du couteau, vous enfoncez la fine tranche de lard dans la chair du cèpe.
Du pied du cèpe. On va en faire que trois, les autres on les laissera nature. On a peut-être des végétariens. Hop, c'est parti, la cuisson. Je mets un petit peu d'huile. Là, c'est une huile de notre composition qui est une huile parfumée aux champignons secs.
Mais on peut prendre sinon une huile végétale classique.
Voilà, tout à fait. Là, au fond de la cocotte, allez, on cuisine. Un petit peu d'échalote, un peu de serpolet. Serpolet, c'est le thym de chez nous. Oh, je me suis dit, pourquoi pas des queues de persil, ça n'abîme rien. Alors, feuilles de châtaignier, je le mets à l'envers. Vous prenez votre champignon, vous l'enroulez comme une papillote.
Et vous fermez avec un cure-dent.
Vous pouvez le faire avec une petite ficelle, mais le cure-dent, c'est beaucoup plus pratique. Ce sera plus facile après. Et généralement, nous, cette recette, on la sert en ce moment, d'ailleurs, avec un sabayon au cèpe. Beurre de cèpe, sabayon.
Donc en fait, c'est ce beurre où vous avez fait frire du cèpe sec.
Voilà.
Et vous montez avec ce beurre votre sabayon qui doit avoir, j'imagine, une texture très mousseuse.
Voilà. Mais j'aime bien nature aussi.
Oh là là, ça sent bon déjà.
Généralement, je mets aussi la fleur de châtaignier. Là, on les a plus. Mais il y a 15 jours, on avait la fleur de châtaignier qui donne un goût de vanille.
Le chaton ?
Parfum de vanille. Le chaton, exactement. Allez, c'est parti. Jus de légumes.
Alors là, vous avez versé un peu de bouillon.
Un petit bouillon de légumes aromatisé un peu avec des cèpes secs.
Évidemment, si on n'a pas le temps de faire son bouillon de légumes ou son bouillon de volaille.
De l'eau. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est vin blanc. Parce que ça amène l'acidité à la préparation. Voilà, 2 minutes et c'est prêt. Généralement, on conduit cette cuisson un peu moins rapidement, mais François m'a mis un peu la pression aujourd'hui.
Mais il est comme ça.
Voilà. Puis je sens que vous attendez depuis longtemps. Alors il faut faire avec, hein. C'est ça la cuisine. Hein. Mais on aime bien les challenges en fait. Mais l'idéal, quand même, c'est de colorer un petit peu le cèpe et de l'enrobler.
D'accord. Et après seulement de l'étuver.
Voilà.
Ouais. L'odeur est extraordinaire là. Hein.
Déjà.
Le parfum est incroyable.
Il y a le vent qui est pour alors.
Ouais. Moi je suis sous le vent, je suis bien là.
Actuellement, le menu champignons, c'est presque une vingtaine d'espèces de champignons différents. C'est là l'intérêt aussi de venir à Saint-Bonnet et de ne pas faire brûler ce qu'il y a dans la marmite. Allez, c'est prêt.
Redonnez-nous l'intitulé, s'il vous plaît, Régis Marcon, de votre préparation.
Les cèpes cuits en feuilles de châtaignier.
On vous applaudit, mais on n'a pas encore goûté.
Oui. Je trouve que ça me paraît tôt, très prématuré, ces applaudissements.
On va déguster sur France Inter.
Régis Marcon a dressé de belles assiettes et nous a rejoints à son micro. Alors, les assiettes circulent. Priorité à nos cobayes consentants, Marc et Amélie. Marc, vous dégainez le premier.
Ça sentait vraiment terriblement bon.
Ça sentait presque la viande. C'est toujours étonnant ça avec les cèpes. Au niveau du goût, au niveau de la texture est vraiment... Il y a un côté fondant, croquant, enfin, on va dire ferme, mais quand même, il n'y a pas de résistance. Mmh. Bah, c'est tout simplement le petit côté végétal de la feuille de châtaignier, assez incroyable.
Qui amène un peu d'amertume aussi.
Oui. Jeux. Amélie ?
C'est très intéressant parce que c'est vraiment équilibré. On a à la fois le gras et le caractère de, du lard qui ressort, mais qui laisse beaucoup de place au goût du cèpe. Et le petit bouillon qui reste en bouche et qui amène encore plus de gourmandise.
Moi, c'est ce petit jus que je trouve fabuleux.
Ouais.
Ce petit jus bien dense.
Le jus est d'une densité, d'une sapidité extraordinaire. D'une pureté aromatique.
Juste un jus de cuisson, avec la réduction de ce bouillon.
Moi, j'adore aussi le jeu de texture entre l'élasticité, le côté rebondissant du cèpe, sa cuisson, et la petite tranche de lard. Ça fait un jeu comme ça de mâche que je trouve très, très plaisant en bouche, en plus de tout ce que vous avez dit.
Non, vraiment, bravo Régis Marcon. Bravo. C'est finalement une forme de simplicité que vous nous proposez.
De toute façon, c'est un peu notre travail de tous les jours, être simple. Et le produit, on aurait tort de l'abîmer, quoi. Il est là.
Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir une très belle forêt. Surtout que c'est, paraît-il, cette année, Régis Marcon, une excellente saison à champignons.
Oui, parce que tout est réuni, l'humidité, le début de chaleur. En ce moment, c'est les derniers jours, il fait un peu plus froid, donc ça a tendance à s'arrêter un petit peu, mais c'est reparti, quoi. Jusqu'à présent, on avait très peu de variétés, là. On est un peu plus de 100 variétés.
Oh là là.
Pas que comestibles. Hein, ouais, ouais. Donc c'est déjà bien.
Parce que quand on voit les prix sur les étals parisiens...
On a la malchance d'habiter à Paris, oui, le prix du cèpe est un peu exorbitant.
Oui, même si les prix ont baissé justement par le fait que c'est une récolte très abondante cette année. On remercie chaleureusement nos amis gourmets, Marc et Amélie. Eh bien, le vin dans la vie et l'œuvre de Régis Marcon, c'est un des sujets de votre temps d'échange, Régis Marcon, avec notre chroniqueur Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Parlons du vin, parce que vous êtes dans une région qui est à la croisée de différentes régions viticoles. Alors, vous les connaissez toutes ces régions, hein, c'est les Côtes du Forêt, c'est le Vivarais, c'est les vins d'Ardèche, et puis c'est évidemment la vallée du Rhône, le majestueux fleuve, avec ses vignobles. Comment expliquez-vous que, à votre génération, un petit peu plus que dans la génération qui vous a suivi, la question du vin était, j'ai eu l'impression de le constater, assez souvent reléguée un peu au second plan?
Je suis assez d'accord avec toi. On est loin de la piquette dont parlait Jean Ferrat dans ses chansons, piquette d'Ardèche. Mon père avait de la piquette, mais pas que ça, parce qu'il était marchand de vin, donc j'ai baigné dans le vin, j'ai nettoyé les tonneaux de vin. Donc, et souvent, Jaboulé, aîné d'ailleurs, nous amenait du vin qui se bonifie en altitude. J'ai toujours baigné dans le vin. Là où j'interviens sur ce que tu dis, et c'est important, c'est que dans un cursus... d'école hôtelière, d'apprentissage, c'est important de goûter le vin très tôt. Et dans le vin, c'est un peu comme dans la nature. C'est primordial d'aller à la rencontre du vigneron. Sinon, on ne comprend pas toujours le vin, finalement.
Oui, c'est vrai.
Et c'est ces échanges-là qui vous font apprécier le vin. Moi, dans le vin, je vois des hommes et des femmes qui ont cette accroche comme nous, on peut l'avoir avec les produits. On est un peu dans la même sensibilité. Et en même temps, moi, ce qui me plaît le plus dans le vin, c'est l'accord mets-vins, forcément. Parce qu'il y a des choses fabuleuses qui se passent en bouche. C'est un complément. C'est un trépied chez nous. Vous avez la cuisine, le plat qui sort. La deuxième, c'est le service qui va amplifier, qui va expliquer, qui va faire rentrer les gens dans l'histoire, dans la composition du plat. Et la vigne qui intervient en complément, soit en contraste, soit en accompagnement. Et ça, c'est des travaux qu'on fait à Saint-Bonnet le mieux possible, forcément avec un petit clin d'œil à la vallée du Rhône. Chez nous, il y a une table en verre où il y a tous les villages de la vallée du Rhône que vous pouvez visiter pour vous imprégner.
Alors, je vous ai mis dans votre verre un vin que vous avez goûté. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, en toute franchise, si ça vous plaît ou pas.
Trempez vos verres.
Mais déjà, la bonne surprise, c'est que j'ai peu goûté le cèpe, mais le peu que j'ai goûté avec le jus, il va très bien, ce vin.
Oui, je l'ai choisi pour ça.
On est vraiment... bien sûr, quand on voit la couleur, on voit un vin qui n'est pas jeune. Hein. Il a quelques années de bouteille. J'aime bien ces vins structurés un petit peu. On est un peu... Je pense qu'on est, dans le sud, hein, quand même, un peu. Je peux me tromper.
Ah. Alors, c'est pas le sud, c'est un peu au nord de chez vous, Régis, mais... J'ai pas beaucoup d'espoir de vous surprendre, vous connaissez trop le vin pour que je puisse vous surprendre.
Ou trop.
En restant, je voulais rester aussi quand même un peu dans votre coin. Non, on est un peu plus au nord, on est en Côte Rouennaise.
Ah oui, chez nos amis, on est... Ah oui, d'accord.
Exactement.
J'aurais dû le reconnaître.
C'est une cuvée qui s'appelle Chez Muron, Côte Rouennaise, chez Muron, 2016.
2016 !
Oui,
9 ans.
Chez Stéphane Sérol. Donc d'abord, ça prouve que cette appellation, qui peut paraître modeste par son nom et sa réputation, en fait, fait des très beaux vins et des vins de garde. Ce vin, on en a encore sous le pied. Il n'est pas du tout à son optimum de maturité. C'était aussi pour moi l'occasion, très rapidement, de rendre un hommage à un homme qui nous a quittés tout récemment, pendant les vendanges, Robert Sérol, le père de Stéphane. Robert Sérol fait partie de ces vignerons qui, dans une appellation, ont eu une importance considérable parce qu'il a vraiment sorti l'appellation de l'anonymat. Et avec la complicité de Pierre Troisgros, ils avaient acheté tous les deux une parcelle qui s'appelle les Blondins. Et c'est une cuvée qui se trouvait, dès le départ, dans le restaurant de Roanne chez Troisgros. Ça a contribué à faire connaître cette appellation. Donc voilà, c'est chez Muron, 2016.
Et on salue effectivement la mémoire de Robert Sérol.
Et je vous offre, Régis, alors là, pour le coup, une bouteille qui vient de la vallée du Rhône, mais pas de la bonne rive, on va dire. Pas de la rive droite, mais de la rive gauche du Rhône. D'un vignoble qui est en pleine renaissance depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est le vignoble de Sessuel.
Ah oui.
Il y en a guère plus de 60 hectares aujourd'hui. C'est un vin que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un 2018, il s'appelle la cuvée L'âme sœur, d'un domaine pour lequel j'ai une très grande admiration, qui est le domaine de Stéphane Augier. Et voilà.
Et vous l'offrez à Régis.
Ça vient de ma cave. C'est un 2018, ça commence à très bien se goûter. Et ben, vous pourrez peut-être l'ouvrir pour votre anniversaire. Vous aurez une petite pensée pour Stéphane et pour moi.
Il y a une bouteille parce que
merci.
Moi, je m'appelle presque Régis aussi.
Oui, mais François-Régis, tu cuisines pas encore assez bien le champignon.
Merci. Vous nous rappelez les références du très joli vin que vous nous avez fait déguster.
Ça s'appelle Côte Rouennaise chez Muron 2016 du domaine Stéphane et Karine Sérol.
Un grand merci Jérôme Gagnès. Et j'ajoute que vous êtes, on n'a pas le temps d'évoquer tous ces sujets, Régis, mais très impliqué dans des projets solidaires, citoyens. En 2022, vous avez été le parrain du projet collectif Handicap et VAE. Cofinancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis il y a un mois, vous avez donné un cours de cuisine aux résidents de la Fondation Personnage, cette fameuse association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap. Et le 6 janvier prochain, vous allez cuisiner au profit de l'association Kylian, qui vient en aide aux personnes en situation de handicap, adultes et enfants, en partenariat avec le lycée hôtelier de Saint-Chamond. Vous avez en face de vous un homme tout simplement exceptionnel. Je ne dis pas ça en étant trop bisounours, mais avoir 3 étoiles, avoir à ce point réveillé votre village, avoir impliqué toutes vos familles dans cette aventure, et prendre encore le temps de vous engager dans autant d'œuvres et de projets solidaires, chapeau quand même. Et Régis est aussi un auteur prolifique, on le disait, puisque votre dernier tome, Viande et volaille, 20 portraits d'animaux, 60 gestes techniques, 110 recettes, photographie, Philippe Barret, stylisme, Nathalie Nanini, aux éditions de La Martinière. J'ai commencé à le feuilleter hier, je ne l'ai pas lâché. J'adore ce genre de bouquin avec la mise en scène de tous les gestes techniques, les gestes du boucher, la découpe, les cuissons, les différents animaux évidemment, du gibier, mais également des animaux d'élevage, et puis surtout la qualité de ces recettes avec, tenez par exemple, ces brochettes de poulet aux noisettes. Vous allez avoir beaucoup de succès avec ce gros pavé qui n'est que le dernier tome de toute une collection qu'il faut avoir à la maison. Puis pour ceux qui voudraient vous rencontrer et vous écouter à nouveau, Régis Marcon, on aura le plaisir de vous retrouver à Uzès pour le festival de gastronomie Saveurs et Savoirs que nous avons fondé. Il y aura d'ailleurs aussi Elvira Masson, Jérôme Gagnès. Ce festival qui se déroulera dans la belle ville du Gard. On aura une émission en public également le dimanche, et ce festival se déroulera du 9 au 12 octobre. Et nous, on se parlera sur la scène de l'Ombrière devant un très large public le samedi 11 octobre à 17h30. Il reste encore quelques places, vous pouvez y aller. Et puis cette rencontre sera suivie d'une dédicace de vos ouvrages, dont le tout dernier, Régis Marcon.
Avec plaisir en tout cas.
Et merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Paris.
Merci.
La semaine prochaine, le destin étonnant d'un couple en cuisine. Moko et Omar, ça vous dit quelque chose, Elvira Masson ?
Et j'en serai dimanche prochain.
Mokonats ?
Ouais,
à Mokonats. Paris, on vous promet une très très belle leçon de cuisine métissée. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.